Christophe Madec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de clientèle chez BCE, spécialiste du risque cyber. Alors, il y a une étude qui a été publiée donc, par PwC et vous. Vous dites que 76% des ETI ont déjà subi une attaque cyber, c'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui que ce risque-là est un risque courant.
Tout à fait, c'est un risque courant. 76%, c'est un chiffre important. C'est un chiffre qui est en progression chaque année, sachant que ce que l'on constate également, c'est que l'enregistrement des incidents cyber, la remontée d'informations, se fait certainement de manière plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne se faisait hier.
Est-ce que justement la prise de conscience des ETI ou des PME ou des ETI est là, ou est-ce qu'il y a encore vraiment besoin de beaucoup de pédagogie?
Alors il y a toujours besoin de pédagogie. On a commencé cette pédagogie, il y a à peu près 3 ans maintenant. Et l'objectif de l'enquête était d'aller à la rencontre des dirigeants d'ETI. Hein, j'insiste sur le terme dirigeants d'ETI. On ne souhaitait pas avoir un dialogue en face à face uniquement avec des DSI ou des RSSI, c'est-à-dire des gens du métier de l'informatique, du monde de l'informatique et bien au fait de ces sujets-là. On souhaitait effectivement échanger avec les dirigeants pour avoir à la fois leur perception du risque cyber et à la fois de voir comment ils envisageaient de traiter ou ils traitaient ce risque dans les entreprises.
On sait les entreprises concernées quand on, par exemple, par le risque industriel, finalement le risque cyber. Alors, qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par ce risque cyber? Parce qu'on a l'impression que pour l'instant, elle ne le voit pas forcément sous toutes ses formes.
Alors, je vous confirme qu'elles ne le voient effectivement pas sous toutes ses formes. Elles ont souvent une vision parcellaire du risque et de la menace cyber. Il est encore très souvent identifié comme un risque externe, hein, le pirate informatique, pour dire les choses très simplement. Alors que les études montrent, il y a de nombreuses études sur le sujet, notamment Price, qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette enquête, qu'une grande partie des menaces ou des incidents cyber sont d'origine interne et proviennent notamment d'employés. Donc voilà, donc il y a une prise de conscience sur laquelle effectivement il y a encore pas mal de progrès à faire, et prise de conscience également sur les conséquences que peut avoir demain un incident cyber sur l'entreprise.
Oui, parce que là on pourrait dire que ça peut avoir un risque, ça peut être un risque majeur pour l'entreprise, pour la survie de l'entreprise aujourd'hui.
Totalement, c'est un risque majeur pour toute organisation, l'entreprise, tout à chacun, tout simplement parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les systèmes d'information, j'allais dire, se sont largement développés, où la donnée est devenue quelque chose d'essentiel. Hein. On dit aujourd'hui que la donnée est le premier actif, la première richesse de l'entreprise. Et il est évident que, et pour répondre à votre question sur ce que l'on entend d'un risque cyber, c'est essentiellement un acte de malveillance, d'origine interne et externe, avec ou sans intention de nuire, qui va avoir deux impacts. Le premier, de porter atteinte au bon fonctionnement des systèmes d'information. Et on voit tout de suite que si un système d'information ne fonctionne pas comme il doit fonctionner, qu'on soit dans une société de service ou une société industrielle, on aura quelques soucis au niveau de l'activité, et qui va également porter atteinte aux données, au stockage des données. Donc si effectivement on touche à l'intégrité des données, à la confidentialité ou à la disponibilité des données, on aura forcément un sujet.
Alors on le voit du côté des grandes entreprises, on sait que direction informatique aime bien envoyer des courriels ou des emails pour vérifier si les gens sont attentifs à ça, et on pourrait le dire, systématiquement, il y a quelques clics. Et donc, les gens sont ensuite convoqués pour aller faire une petite réunion cyber, en tout cas informative. Sur les ETI, on en est quand même encore un peu loin.
On en est encore un peu loin, puisque au travers de notre enquête et des dirigeants interviewés, très peu percevaient la menace interne comme une véritable menace. Hein, toujours cette vision de la menace externe. Mais vous avez entièrement raison. Le constat, c'est que les ETI, et même les entreprises en général, hein, ont d'abord une approche technologique du risque cyber, donc un risque informatique, donc que l'on va déléguer à des experts informatiques, à un DSI, un RSSI, alors qu'en fait la menace et l'appréhension de la menace, elle est au moins sur 3 dimensions. Des vulnérabilités qui peuvent être comportementales, celles que vous citez, le fait de double-cliquer sur le piège joint par exemple, alors que l'on a été averti, la vulnérabilité en matière d'organisation. Pour vous donner un exemple, si vous avez un site informatique qui va piloter 3 usines de production, vous êtes peut-être mieux protégé, mais plus vulnérable si ce site-là est attaqué. À l'inverse, si vous avez 3 usines non connectées et 3 sites informatiques, vous serez, le jour où vous êtes impacté, les conséquences seront un peu moins importantes. Et enfin, il reste le risque technique, le risque informatique, avec des investissements en matière de cybersécurité qui sont fort heureusement croissants.
Qu'est-ce qu'on voit comme évolution en interne, puisque sur certains postes, par exemple, aujourd'hui, ils mettent une clé USB, c'est plus possible, on ne peut plus exporter un certain nombre de données, donc il y a quand même des évolutions. Qu'est-ce qu'on voit comme évolution justement concrète?
Les évolutions concrètes, elles sont surtout sur les aspects technologiques. La prise en compte du facteur humain est intégrée, donc je pense que les politiques de sensibilisation sont un peu plus fortes. En fait, la vraie difficulté, ce que l'on a ressenti au niveau des dirigeants, c'est dès lors que je ne sais pas exactement quoi craindre, ce que j'ai à craindre, je me trouve donc dans l'impossibilité ou une difficulté à mettre en œuvre les mesures qui seraient les mesures correctrices associées.
Du côté des évolutions, vous êtes aussi, donc un groupe aussi qui s'occupe d'assurance. Il faut prévoir, alors quel type de précautions on doit prendre? L'assureur, c'est vrai qu'il prévoit beaucoup de choses. Est-ce qu'il peut prévoir tous les risques associés, voilà, on va dire, à cette cybercriminalité?
Alors, nous sommes courtiers en assurance, conseil en assurance, hein, c'est-à-dire que nous sommes aux côtés de nos clients pour les conseiller, les informer, les orienter pour effectivement le traitement de ce risque, risque ensuite qui sera porté, transféré à une compagnie d'assurance. Donc on est plutôt dans cette dimension-là. Les risques assurables aujourd'hui sont relativement simples. On est sur un risque nouveau qui n'est pas couvert par les assurances traditionnelles, donc il a fallu innover, trouver des solutions pour effectivement intervenir en garantie. Pour prendre des exemples très simples, on va couvrir tous les frais informatiques, l'investigation numérique, la reconstruction numérique. Si effectivement l'incident cyber est significatif, il y aura des conséquences sur l'activité, donc de prendre en charge la marge brute ou les frais supplémentaires d'exploitation. Et un des éléments, j'allais dire, majeurs et moteurs de l'assurance cyber, c'est toute la partie gestion de crise. C'est la capacité, dans des délais très courts, de rassembler un certain nombre d'expertises pour accompagner l'entreprise, être dans un mode collaboratif et l'aider à surmonter le mieux ce sinistre cyber.
Alors, vous parliez des données privées, on est vraiment dans cette année, hein, avec des échéances concrètes. Qu'est-ce que ça peut changer justement? C'est peut-être une prise de conscience supplémentaire? Parce qu'il va falloir mettre un certain nombre d'outils aussi, les entreprises vont devoir mettre un certain nombre d'outils en place.
Complètement. Alors, une prise de conscience nouvelle avec l'entrée en vigueur du RGPD mai 2018. RGDP, dont l'Union européenne a dessiné les grands contours en 2012, donc ça fait déjà 6 ans. Un gros chantier pour l'ensemble de nos clients, pour l'ensemble des entreprises. Une prise de conscience, effectivement, d'un traitement particulier sur la donnée personnelle. Donc, contraintes organisationnelles, investissements, et après, derrière, bah, effectivement, des menaces de sanctions qui peuvent être importantes, hein, de la part de la CNIL notamment, et un principe de notification qui peut s'avérer extrêmement coûteux si effectivement il y a fuite de données personnelles à l'extérieur.
Merci Christophe Madec d'avoir fait le point avec nous.
Merci à vous.